418-971-101, répondez par oui ou par non. Est-ce que cette tragédie-là à Montréal vous a secoué? Moi, Anto, ça m'a vraiment secoué. Plus que je l'aurais pensé, peut-être parce qu'on l'a vécu live en ondes hier, ben oui. Moi et Mathias. Donc là, tu sais, où il y avait plein d'informations qui arrivaient, puis c'était très difficile de suivre le cours des événements.
Aussi, au début.
Exactement. Roger Ferland, le remercie, qui est venu nous porter main forte à deux reprises durant l'émission. Mais ce qui me perturbe, moi, puis c'est pour ça que je répondrais un oui en majuscule si j'étais un auditeur. C'est toute cette montée-là de la radicalisation et de la violence. Puis là, ça, c'est dans plusieurs mouvements qu'on le voit. Et moi, ce mouvement-là, Incel, c'était complètement étranger. Je le connaissais pas. Puis là, de savoir qu'il y a des hommes qui sont célibataires, qui utilisent la violence pour se faire valoir, ça me perturbe énormément.
Bien, je te comprends. Puis la première des choses, c'est que c'est normal que ça se passe un peu loin de nos yeux. C'est pas nécessairement dans nos milieux, à part si, à un moment donné, t'as un proche là, qui tombe dans cette radicalisation-là.
Ouais, exactement.
Mais c'est vraiment lié au phénomène des chambres d'écho, ce phénomène-là aussi. Puis, il est très intimement lié aux réseaux sociaux, à la montée de la communication numérique. Et ce qui fait en sorte que tu deviens comme dans une petite bulle. C'est pas quelque chose... Là, les médias traditionnels commencent à s'y intéresser, ouais. Mais ça avait l'air de quelque chose d'assez niché, qui était pas trop répandu. Mais finalement, on se rend compte que c'est un phénomène qui est en montée. On parle beaucoup quand même, et de plus en plus, je pense, d'une certaine détresse là, chez les jeunes hommes. Et d'un... Là, on tombe pas dans la radicalisation, mais quand même d'un intérêt plus grand pour la droite politique.
En effet.
Et quand on pousse à l'extrême, ben on s'en va vraiment dans un autre degré. Et là, on tombe dans les cercles incels.
Oui, parce que ces chambres d'écho-là, j'en parle énormément en ondes. Puis je veux vraiment toujours les mettre à l'avant-plan pour essayer de les anéantir le plus possible. Parce que ces chambres d'écho-là, puis là, pour donner un exemple, ici à Québec, c'est le genre de groupe uni contre Bruno Marchand, où là, t'es 2000... Puis je vais utiliser le mot, t'es 2000 tarés à juste vomir ta haine sur Bruno Marchand à chaque jour avec des posts sur les nouvelles de la ville de Québec. Mais dans ces 2000-là, à un moment donné, il y en a un taré qui va prendre un gun puis qui va y aller.
Bien, c'est ça. Puis tu sais, c'est des événements qui sont complexes. C'est pas parce que t'aimes pas un politicien que tu vas faire le pas de prendre une arme à feu puis d'aller t'y attaquer. Mais à un moment donné, ces groupes-là qui se radicalisent puis qui sont un peu décomplexés puisque les autres te disent bravo, bravo.
Ben oui.
Puis souvent, c'est des gens seuls qui se trouvent un groupe d'appartenance.
Mm-hmm.
Donc, ce groupe d'appartenance-là, on a vu aussi, hein, il y avait comme des espèces de miliciens là, qui ont été arrêtés puis qui prévoyaient faire une attaque
ici
terroriste
à Québec,
ici à Québec. Bien, ces gens-là, souvent, il y a une solitude à exploiter. Puis il y en a qui vont tomber dans des sectes religieuses, il y en a qui vont tomber dans toutes sortes de choses. Et un des groupes d'appartenance, où est-ce qu'ils trouvent une espèce de famille puis une espèce de réconfort, bien, c'est des groupes radicaux comme ceux-là. Je sais que tu vas parler avec un expert
plus tard. Oui, exactement. Je le rappelle, on va parler aux alentours de 13h05 avec Dave Poitras, qui est directeur stratégique et scientifique pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Donc, restez avec nous, ça va être très intéressant comme conversation.
Parce que la radicalisation, c'est un processus, hein. Les gens ne se réveillent pas du jour au lendemain puis ils sont radicalisés. Il y a vraiment un processus. Puis quand on le comprend, on est plus à même de combattre le phénomène. Moi, ma réaction hier face à l'attentat, c'est que ça me faisait penser à Polytechnique.
Oui, vraiment.
L'attentat de la Polytechnique en 1989, où des femmes ont été ciblées parce qu'elles étaient des femmes et que le tireur avait une haine. Il en voulait aux femmes et au féminisme.
Mm-hmm. Oui, puis je fais une parenthèse parce que moi, je l'ai fait avec mon garçon de 16 ans hier, puis je me souviens que mes parents l'ont fait avec moi à l'époque à 10 ans parce que je l'ai déjà raconté. Chez mes parents, c'était l'actualité en continu tout le temps à la télévision. Et je me souviens quand il y avait eu justement le drame de la Polytechnique, bien, mes parents écoutaient les émissions spéciales, puis ils m'avaient expliqué ce qu'il en était, puis les motivations de l'homme, puis ils m'avaient expliqué qu'il ne fallait pas que je tombe dans ces motivations.
Quand t'es jeune puis qu'on t'apprend ça pour la première fois. Moi, à Polytechnique, j'étais jeune, là, j'avais 5 ans. Là, fait que ma mère m'a pas dit, il se passe ça, j'étais trop jeune. Mais au fur et à mesure des commémorations qu'il y avait puis des reportages, à un moment donné, elle m'a dit oui, elles ont été attaquées parce que c'était des femmes. c'est comme si j'avais même pas le dossier dans ma tête pour comprendre ça. T'sais, moi, j'étais née dans un milieu où les femmes, tu te faisais pas dire que tu peux faire ou pas faire quelque chose. C'est un choc. Donc, ce qu'on a vu hier, ben, ça nous fait penser à ça. Le manifeste, comme tel, il y a beaucoup de confusion. C'est un peu difficile. On dirait que ça ne rentre pas dans toutes nos petites cases dans notre tête.
De trouver
non
le
plus.
Fil conducteur, là,
parce
il y a
souvent,
tellement de choses.
Souvent, ce genre de personnages-là vont être très à droite, mais lui, il s'en prend aussi au capitalisme et au libéralisme, ce qui fait que. Puis en même temps, ce serait dur de dire que c'est un marxiste. Là. C'est pas, politiquement, c'est un peu confus.
T'sais, j'ai feuilleté le manifeste aussi, puis par moment, il y a un discours communiste, littéralement.
Ouais.
Là.
Un peu à la Una Bomber aux États-Unis, à un moment donné, qui rejetait le système capitaliste et de libéralisme. Il y a des similitudes à voir.
C'est comme si l'homme en question en voulait contre la société au complet.
C'est ça.
Puis à partir de ce moment-là, il ciblait des personnes ou des groupes d'individus, comme par exemple les groupes de sociétés pornographiques ou les PDG de grandes entreprises, les femmes entre autres.
Les policiers.
Des groupes qui
sont complices.
Entretenaient.
Exact.
Cette société-là qui était contre lui.
Absolument. Parce que quand on lit ce manifeste, qu'on voit, c'est que lui considère, comme c'est beaucoup dans le mouvement incel, que la société est sur le bord de l'effondrement, de toute façon. Et ça, c'est à cause de la perte des valeurs traditionnelles, de la famille comme socle de la société.
On était donc bien mieux quand on faisait 12 enfants, la femme restait à la maison.
Ben, j'imagine que pour certains
parce
hommes,
là,
ça devait effectivement être mieux.
Parce que là, il y avait un homme pour une femme, c'est le mariage forcé.
Exactement. Puis les femmes n'avaient pas leur mot à dire. Puis pendant longtemps, on n'avait aucun droit. La vision du monde de ces personnes-là radicalisées, c'est qu'on serait beaucoup mieux dans une société où les femmes retourneraient à la maison.
Mm-hmm.
Leur tâche principale serait d'enfanter, de s'occuper des enfants et les messieurs, eux, vont travailler. Donc, c'est très lié aussi à une solitude. Ils se sentent rejetés par la gente féminine. Ils voient les femmes comme étant des manipulatrices. Ils vont les dépeindre comme des personnages cruels qui font exprès de faire souffrir certains hommes de la société qui ne remplissent pas leurs critères, que les femmes ne trouvent pas attirants, que les femmes ne trouvent
exactement.
Pas assez riches comme telles. Et ce que...
C'est pas à eux de changer, mais au reste du monde.
Absolument. C'est pas
c'est ça. Ben, c'est tout à fait logique, là.
Et dans le fond, dans son manifeste, il fait principalement deux choses. La première des choses, c'est qu'il fait un espèce d'appel pour les autres personnes
incelles.
« Je comprends votre souffrance. Je me fais le porte-parole. »
Aucun sens.
Et le deuxième élément, c'est un appel à la violence. Donc, « Kill them all », c'est comme ça qu'il le formule. Il invite les gens qui ont la même souffrance que lui à commencer à faire des tueries de masse comme ça pour renverser ce système qui désavantage finalement ces jeunes hommes qui se sentent bien frustrés.
Non, c'est très, très questionnant de voir que ces mouvements-là prennent de plus en plus d'ampleur dans la société. Je sais même, vous avez des gens proches de vous que vous dites hey, non, le discours commence à changer, bien, n'hésitez pas à intervenir. Parce qu'il ne faut pas que les gens se rendent jusque-là. Je le répète.
Il y a des outils, d'ailleurs, hein, qui sont disponibles. Comment ouvrir des discussions avec des gens qu'on a l'impression qu'ils sont en radicalisation? L'expert à qui tu vas en parler pourra certainement le préciser.
C'est clair. Puis, je le répète, souvent, on va dire, quand il y a une tuerie de masse, « Ah, c'est le port d'armes, ah, c'est telle chose. »
À chaque fois qu'il y a un attentat ou un événement comme celui-là, je me dis, qui va prendre ça sous la lunette déjà de ce que tu penses et l'exploiter pour pousser un agenda politique? Puis c'est un peu normal de le faire, mais si tu es contre les armes à feu, tu vas dire, voyez, c'est parce qu'il y a des armes à feu. Si tu es pour les armes à feu, tu vas dire, ah, ben pourtant, on a tout interdit les armes à feu avec Justin Trudeau, puis encore
c'est
des attentats, fait que ça marche pas.
Oh, ouais.
Il faudrait faire attention
à ces agendas politiques-là.
Pour essayer de vraiment comprendre les causes
qui
ont mené à ça, parce que sinon, on pose pas les bonnes solutions.
Exactement.
De toute façon. Et ça fait quelques années que ça commence à être sur le radar des gouvernements, d'ailleurs, parlant de solutions. Le premier moment où ça a été vraiment mis sur le radar, c'est une attaque qui a eu lieu en Ontario. C'est en 2020. C'est un gars qui est rentré dans un spa, il a attaqué deux femmes à coups de couteau. Il y en a une qui est décédée.
Avec 42, 48 coups de
ça
couteau.
Ça dénote une certaine colère, effectivement. Puis
exactement.
L'autre femme a réussi à s'enfuir. Puis je voyais qu'en France, le masculinisme incel a été classé menace terroriste il y a quelques jours. Donc, ça vient d'être considéré comme une des menaces terroristes qui existent dans nos pays.
Ben, au Canada, c'est déjà reconnu comme étant menace terroriste également.
Et là, il va falloir se poser des questions sur les médias sociaux.
Ben oui, parce que c'est
sur les algorithmes de médias sociaux.
Sur le Far West.
Sur ces groupes-là, justement, ces chambres d'écho-là qui se créent parce que une des composantes, sinon la composante majeure, c'est là.
Ben oui.
C'est que, tu sais, puis pas plus tard qu'un matin, moi, Nathan Meilleur me disait, hey, j'ai fait plein de recherches sur le mouvement Incel hier pour essayer de le comprendre.
Tout le kit.
C'est qu'il dit, il dit là, tabarnache, mon algorithme est scrap.
Complètement. Fait
que, tu sais, Nate, un gars sain d'esprit qui a animé ça à Boulevard
là, se fait
et à Weekend,
ce
va se faire pousser ça. Donc, imagine quelqu'un qui est en train de se radicaliser, comme cet homme-là. D'ailleurs, Fred, non, on n'aura pas peur des mots, là. Fred, il dit, écrit, dites-le, ces Incels-là, c'est des hosties de coucou dangereux. En effet, sont dangereux.
Oui.
Parce que la radicalisation les amène dans cette zone danger-là.
Ben, lui d'hier, je pense qu'on peut dire qu'il a l'air coucou, je suis d'accord. Mais il faut faire attention de ne pas se faire un stéréotype que c'est tous des fous furieux puis que vous
en
allez
effet.
Les identifier facilement. Parce que la radicalisation incel, ça peut des fois avoir l'air... Ça peut être votre collègue,
oui.
Ça peut être votre cousin. Ça, c'est pas nécessairement des fous furieux.
Exactement.
Là.
Mais pourquoi je parle des algorithmes sur les médias sociaux, c'est que ça part de là. Tu consommes un produit, tu démontres peut-être un certain intérêt, mais tu n'es pas sûr encore. Mais là, on fait juste te le pousser.
Ça part de là, mais c'est clairement un accélérant. C'est comme l'essence qu'on met sur une petite étincelle, des fois, qu'il y a chez quelqu'un. Puis pour moi, c'est sûr que la solution, ben oui, de s'attaquer à toute la question des médias sociaux. Bon, premièrement, l'accès chez les jeunes, ça fait débat, puis moi, je pense que c'est une très bonne chose. On est plus influençable, évidemment, quand on est jeune. Ça va être aussi de prendre conscience de ça, comme parents, comme personnes qui font de l'éducation auprès des jeunes, parce que quand on ne comprend pas un environnement, on n'est pas capable d'aider les plus jeunes
en plein ça.
À s'équiper pour faire face à ces éléments-là. Sécurité publique, le droit doit s'adapter aussi. Souvent, la justice est toujours, j'ai envie de dire, toujours un petit peu en retard hein, sur les phénomènes de société. Donc, il y a vraiment une discussion à y avoir autour de ça.
Les enquêtes policières aussi, les renseignements secrets, il va tout falloir qu'ils s'adaptent justement pour combattre de plus en plus ça. Moi, c'est pas mêlant. J'aurais une solution bien simple. Je forcerais les médias sociaux à pousser des algorithmes autres. Tu lis des textes incel, m'a poussé des textes à parité.
Des services, oui, c'est ça. Puis des services d'aide, ça serait bien.
Exactement. Tu sais, je pousserais ça comme ça pour que là, à un moment donné, la personne fasse « Ah, hein, regardons ça, cette opinion-là. »
Malheureusement,
aussi.
Les médias sociaux, c'est des entreprises privées qui veulent faire de l'argent. Donc,
Si
t'aimes quelque chose, je vais te le pousser. Toutes les publicités vont tourner autour de ça. Pourquoi? Parce que je veux du clic, parce que je veux de l'abonnement, parce que je veux que tu achètes des produits. Malheureusement, le bien commun, ça passe bien loin dans leur priorité.
L'auditrice nous amène un bon point ici par texto. Elle dit le problème, c'est que les propriétaires des réseaux sociaux veulent faire de l'argent.
Eh bien, voilà.
Puis pour eux autres,
exactement
c'est payant.
Ce que je pense.
Puis là, c'est payant d'avoir ces chambres d'écho-là. Puis
ah,
c'est payant
foutent,
d'avoir.
Là.
Ils s'en foutent eux
autres. Soyons honnêtes, ils s'en foutent complètement. Là.
Vraiment, ils n'ont aucune préoccupation. Morale et sociétale. Matière de circulation?
Oui, juste vous signaler présentement sur le pont de Québec, il y a une panne qui bloque une voie sur deux. On nous dit que c'est terminé. C'est en direction sud que ça se passe. C'est terminé, sauf que le mal est déjà fait. Il y a un gros ralentissement dans le secteur. C'est du pare-choc à pare-choc jusqu'à Boulevard Laurier.
Merci beaucoup. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission Nageuse. On est dans le caucus avec Antonine Iaccarini. Mon dernier caucus de la saison
avec toi,
Anton. T'en fais un jeudi, puis par la suite, on se revoit l'automne.
Non.
Tu vas être à l'île au coude.
Moi, c'est correct.
J'ai hâte,
je
c'est une belle place. C'est une belle place que j'ai découvert cette année. Puis,
c'est beau
on
comme
a tout. Tellement aimé, moi et ma conjointe, qu'on a dit « Ah ouais, on amène Oli et Gabou. » Hey, normalement, on s'assinerait peut-être avec plus de virulence, mais j'ai pas le goût d'être virulent aujourd'hui dans les conseils.
Tu fais le doux.
Ouais, exactement. Mais tout ça pour dire qu'on passe de cette tragédie-là à Montréal à la livraison du livre bleu hier soir dans un conseil national du PQ de façon virtuelle.
Ouais.
Et là, je le précise de façon virtuelle, parce que si ça avait été dans une grande salle, avec tout le monde qui a payé ses chambres d'hôtel, je te dirais pas ce que je vais te dire. Mais là, de façon virtuelle, est-ce que peut-être notre futur premier ministre, Paul Saint-Pierre Plamondon, aurait pu user de jugement et dire « Savez-vous quoi? On le fera après la Confédération. Il y a eu un drame qui s'est passé à Montréal aujourd'hui. » On va laisser la place à ce drame-là. Les gens n'ont pas en tête de parler de séparation, puis on va en parler dans une semaine, deux semaines, quand ça se sera calmé. Il me semble que je me serais attendu à ça, d'un politicien aguerri comme Paul Saint-Pierre Plamondon.
Je comprends, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il y avait pas mal d'impératifs qui rentraient en ligne de compte et que, même si c'était virtuel, c'était quand même assez compliqué pour le PQ de déplacer cet événement-là. Puis effectivement, vu que c'était en virtuel, eux ont considéré que c'était assez, excusez-moi l'anglicisme, là, mais low-key, là, assez... Ça passait un petit peu inaperçu, mm-hmm. puis que c'était pas la grosse conférence de la presse avec les feux d'artifice bleus puis tout ça. Ils se sont dit qu'ils allaient le faire parce qu'ils s'étaient engagés à le rendre public d'ici la fête nationale. Ouais. Donc, ils voulaient respecter l'agenda qui s'était fixé. Il faut le dire, le livre bleu sur l'indépendance, il y a pas mal de chapitres qui avaient déjà été dévoilés aussi. Là, c'est pas non plus la grosse annonce. C'est juste que le PQ voulait aussi évacuer en quelque sorte c'est quoi les bases du projet d'indépendance, parce que ça a longtemps été... un boulet, cette affaire-là. Moi, quand je travaillais au PQ, là, puis là, quand les journalistes se mettaient à nous demander s'il allait avoir une armée, puis quelle monnaie, puis comment le passeport allait être, à quelle couleur il allait être et tout ça, là, on n'arrivait jamais à parler des politiques pour maintenant, ouais. là, t'sais, pour qu'il intéresse le monde maintenant, qui n'est pas de l'hypothétique, peut-être, si on fait un pays. Donc, je trouve ça très en phase avec l'approche de Paul Saint-Pierre Plamondon, très assumée, très transparente. Puis l'autre défi avec le Livre bleu, c'était... En même temps, on demande aux péquistes et aux souverainistes en général d'être très précis. Oui, mais là, on ne sait pas ce que vous voulez faire là, dans votre pays imaginaire. Mais quand tu es trop précis, c'est pas mieux. C'est antidémocratique. Si tu me dis, ben moi, mon Québec, il va être de gauche, puis il va être comme ci,
ben,
comme
ça. Ben c'est drôle parce que la première question qui a été posée aujourd'hui aux journalistes, ben là, quelle va être la place de la population dans votre démarche? Mais je fais juste revenir sur le timing, parce que moi, ce qui me perturbe, c'est que ça monte un homme qui dirige avec ses œillères. J'aime pas ça.
T'as l'impression qu'il est un peu... qu'il ne ressent pas la pièce autour de lui.
Ouais, c'est ça.
Je peux comprendre. T'as pas, je te donne pas complètement tort. Maintenant, je pense que c'est pas vraiment la fin du monde non plus. Je l'ai pas
moi
vu
non
comme
plus,
un manque de respect.
Moi non plus, j'en fais pas une grosse bataille. T'sais,
s'il avait fait une sortie partisane, par exemple. T'sais, ouais. une attaque vers un autre, qui avait lancé une mm-hmm. publicité négative. Là, j'aurais dit, hey, buddy, là, c'est vraiment pas le temps. Il ouais. faut être solidaire. Mais t'sais, c'est une annonce... C'est assez niché, ça s'adresse pas, c'est pas quelque chose qui va te faire gagner des votes, c'est quelque chose qui était déjà attendu, déjà prévu. Donc moi je leur pardonne.
Non non, mais c'est correct, puis je suis d'accord avec toi là, c'est pas la grosse affaire, mais j'ai trouvé que ça avait manqué quelque peu d'ouverture. Par contre, à l'intérieur de ce livre bleu là, il y a des choses intéressantes.
Ouais.
De un, on parle de l'armée et je te fais entendre Paul Saint-Pierre Plamondon par rapport à ça en conférence de presse ce matin justement pour présenter le livre bleu aux journalistes.
Bien, c'est-à-dire que ce sont les alliances qui protègent le Québec. Là. En ce moment, le gouvernement du Canada et son armée ne protègent pas à lui seul le Québec. Là. Si un adversaire du Canada décidait d'envahir quelque chose au Canada ou au Québec, on n'a pas du tout l'armée, là, je vous le confirme, pour se défendre. Par contre, on a des partenaires et des traités qui font en sorte que, en équipe, on arrive à protéger l'Amérique du Nord. Et on va devoir s'investir dans cette mission-là. Et donc, c'est pour ça qu'on rappelle... que pour les questions d'adhésion à l'OTAN, évidemment que l'intérêt des États-Unis et du reste du Canada, c'est que le Québec demeure protégé. Il n'y a pas de scénario où les États-Unis vont se dire on va laisser le Québec sans protection alors que la Russie est juste de l'autre côté de l'Arctique.
Ça m'a vraiment épaté, je vais prendre ce terme-là, la façon qu'on a été précis avec la ouais. fameuse question de l'armée, parce que ça, c'est toujours une question. Les auditeurs nous posaient toujours cette question-là quand Paul Saint-Pierre Plamondon était là.
Puis moi, quand j'entends du monde dire « un Québec indépendant », sera pacifiste. Nous n'aurons pas d'armée.
Non. Et là, il a dit wow, là. 5 % du PIB dans l'armée, on va récupérer oui. avec la dette qu'on a pour le pays du Canada, on va récupérer nos bases. Les gens vont pouvoir être dans l'armée québécoise, mais ça sera pas une obligation. On ne dira pas, hey, toi, t'es francophone, t'es dans l'armée québécoise. Tu vas pouvoir rester dans l'armée canadienne si tu veux. C'est juste que tu vas accepter de quitter le Québec, autrement dit. Et puis pour le reste, ben dire, hey, on va créer des alliances, puis ce que dit à la fin, c'est pas fou, là, t'es en disant, voyons donc, les États-Unis ne nous laisseront pas tomber.
On devient même temps. La logique.
Fait que je trouve que c'est très logique.
Ben,
alors, pour une problématique très complexe, une question qui revenait tout le temps, ça a été d'une précision chirurgicale. Faut que je lui donne, c'est un gros point gagnant, ça.
Ouais, puis c'est toujours l'équilibre. C'est que, oui, il faut qu'il soit précis, mais il ne peut pas couler tout dans le béton.
Non, exactement.
Non plus. Donc, tu fais des fondations, mais tu ne peux pas ériger les murs, mettre la peinture sur les murs, la toiture, les rideaux. Il faut que tu dises, écoutez, je vais vous rassurer, voici comment on voit ça. Puis dans le livre bleu, là, il fait des centaines de pages en passant. Là, je ne veux pas finir.
Moi, c'est 524 pages.
Mais tu sais, il explique qu'est-ce qui va se passer étape par étape. Puis honnêtement, c'est un travail qui est rigoureux. Puis je sais, pour avoir parlé à quelques personnes qui ont travaillé dessus, qu'il y a eu pas mal de nuits blanches là, qui ont été passées mm-hmm. là-dessus. C'est... Tu sais, on demande pas aux fédéralistes d'autant de précision.
Non, en effet.
On est d'accord?
Autre point que j'ai trouvé hyper positif, c'est la fonction publique.
Oui.
Depuis le temps, Et ça, je pense que la très, 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 très grande majorité des auditeurs de Boulevard puis réagissent au 418-971-1021. Nous trois autour de la table, tous les politiciens qu'on reçoit ici à Boulevard, on en reçoit de tous les horizons, nous disent « faut dégraisser l'État public ». On cherche toujours une façon de le faire.
QS ne dit pas ça, là, mais en tout cas.
Oui, c'est vrai. Je suis venu pour le dire, mais ça n'allait pas dans mon momentum.
Excuse-moi,
là.
J'ai mais cassé t'as... ton momentum.
Hey, t'as bien fait de casser mon momentum parce que j'y ai pensé. Et là, c'est tellement concret parce que c'est, écoutez, il y a plein de ministères qui sont en double.
Ben
on
oui.
va fermer ces ministères-là. Mmh. Puis après ça, ben, dépendamment de comment Ottawa va travailler avec sa fonction publique aussi, parce que là, il y a des départs à la retraite prématurée à Ottawa, il y a des coupures de postes, il y a ci, il y a ça. Ben là, on va évaluer puis on va dire, bon, ben toi aussi, on peut t'offrir un forfait de départ.
En
toi,
fait, c'est
tu
que ça donne l'occasion, je trouve, de faire un dégraissage.
Et puis un méchant,
parce que c'est
là.
Une refondation. Puis je comprends que ça peut donner le vertige à certaines personnes. Hey, c'est comme tu me dis demain matin,
ben
faut
oui.
que tu déménages. Là, je suis comme, ah, yoy, ça me tente pas. Là.
Ouais,
mais t'es... après, t'es plus content.
Et
c'est une occasion de revoir des vaches sacrées aussi. T'sais, la lasagne administrative, ben là, on va pouvoir peut-être enlever une coupe de couches, effectivement. Les dédoublements avec le fédéral, c'est un argument important pour le mouvement souverainiste. Puis, tu sais, à la fin de la journée, là, faire l'indépendance, là, ça va être des années de négociations.
Ben oui.
Il faut être prêt à ça, là. Donc,
c'est
pas possible de pré-tout régler. Parce
non.
qu'il y a des choses qui sont liées à une négociation qui aurait lieu avec le fédéral. Moi, j'ai toujours cru que le fédéral brassait des épouvantails avant un référendum, puis que, tant que l'indépendance n'est pas faite, et c'est normal. Mais une fois qu'elle serait faite, les amis, là, l'attitude changerait. C'est pas vrai que le Canada partirait en guerre contre le Québec. Non seulement le Canada a intérêt à ce qu'il y ait une relation saine et stable avec le Québec, les États-Unis aussi.
Ben oui, ben,
et ça, c'est un point que Paul Saint-Pierre Plamondon amène souvent. Il faut arrêter de penser là, que tout à coup, on serait vulnérable et qu'on se prend envahir. C'est pas
ben
ça qui arriverait.
Ben,
là.
Les liens économiques, les liens d'affaires vont demeurer. Par texto, vous êtes plusieurs à commenter. Ben, je dirais que Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas la cote avec la souveraineté à l'heure actuelle auprès des auditeurs de Boulevard. Ça représente, je pense, une bonne proportion de la situation. On parle ici justement des investissements nécessaires en défense pour tenir compte du changement d'ordre international. On parle de coûts de rachat des bases. Donc, merci. Continue à interagir au 418-971-1021. Moi, il y a une chose qui m'a fait sourciller dans le livre bleu. C'est notre propre monnaie.
Ouais.
Parce que là, je me suis dit, puis là, je vais te donner l'exemple de l'Union européenne. T'sais. Je me suis dit, ouais, si on crée notre propre monnaie, ça veut dire que le dollar canadien puis le dollar québécois, là, je vais l'appeler comme ça,
ouais.
Il tombe. Puis ça, ça nous rend plus pauvres.
Ouais, puis ça, c'est une affaire souvent qui va refroidir les gens. C'est aussi quand le PQ nous dit qu'on va tellement économiquement et financièrement être mieux indépendant. Il y a des choses qui seraient mieux, des choses qui seraient moins avantageuses. Moi, je pense sincèrement que quand un pays devient indépendant, après, ça ouvre la porte à des négociations davantage d'égal à égal, notamment sur des monnaies communes, des accords de libre-échange
bon
et
point.
De libre-circulation. Tu sais, des fois, on fait le lien avec l'Angleterre qui est sortie, le Royaume-Uni qui est sorti
ouais.
du Brexit, puis dire que c'était bien épouvantable comme décision. Mais ça se compare pas. Puis le Québec pourrait faire des alliances par la suite. Tu sais, si tu dis, bon, on va avoir notre propre monnaie, parce qu'il y a aussi des arguments qui sont à l'effet que le pétrole... disons, déforme un peu notre régime mm-hmm. monétaire au Canada, puis que ça fait en sorte que, par exemple, quand le dollar était très élevé à cause qu'il était boosté par le pétrole albertain, bien, ça désavantageait systématiquement notre secteur manufacturier. Donc, le Québec n'était pas tant avantagé d'avoir un dollar canadien aussi fort, finalement. Donc, c'est des débats de banquiers, là, puis on n'est pas banquiers, ni toi, ni moi,
non.
ni économistes. Mais bref, il y a des arguments pour, des arguments contre. Moi aussi, je me disais, pourquoi pas avoir le dollar canadien? Puis
c'est
après ça.
Ça,
je me suis dit, ben négocions-le après.
Mm-hmm.
Si on veut avoir une monnaie commune. Tu sais, les pays européens, là, avant d'embarquer dans l'Union européenne, c'était des pays indépendants.
Bon, oui,
t'as ta voix au chapitre, t'as ton propre micro, puis t'as ta chaise.
Ça a négocié en grime.
Oui, ça n'a pas été facile.
Non, non, non,
mais
non,
ils sont arrivés à la conclusion que les avantages dépassaient les inconvénients. En ce moment, il y a plein de pays qui remettent ça en question, les partis d'extrême droite, notamment dans plusieurs pays qui sont en montée en Europe. Il n'y a rien de simple, là.
Non.
OK?
Puis la seule chose que j'ai pas vu passer dans les médias, parce que là, tu comprendras que j'ai pas lu 527 pages, moi non,
non.
plus, hier soir, c'est j'ai hâte d'entendre parler du point du développement de nos ressources naturelles. Parce que je pense
ouais.
que ça va être un must pour justement pouvoir créer cette richesse-là au Québec. Là, je suis pas mal convaincu.
C'est des débats, ça, à avoir après l'indépendance. On peut regarder ce qu'on a comme richesse, puis après ça, l'évaluer, puis de se demander si on a les reins assez solides. Mais c'est pas au livre bleu, à mon avis, à déterminer déjà si on va aller chercher le pétrole d'Anticosti ou pas. Ça, c'est des partis politiques qui vont faire des élections puis qui vont débattre.
Parce que c'est le point justement d'un auditeur pendant que je le disais qui disait hey, écoute, on est déjà endettés, puis là, le Québec, on veut jamais développer nos ressources naturelles. À un moment donné, il va falloir les développer. Je suis très, 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 très d'accord avec ceci. Hey, on termine avec des candidatures parce que là, hier, c'est toi qui m'as envoyé ça. Anne-Marie Laroche, qui se présentait dans Vanier-les-Rivières pour le PQ, a dit « OK, c'est assez, je m'en vais ». Puis là, je me suis dit « Est-ce que c'est, je ne sais pas comment je peux bien l'appeler, là, ces circonscriptions-là, mais tu sais, ces chefs de circonscription, là, comment qu'on appelle ça en langage politique? »
Bien, il y a
là?
Les exécutifs de circonscription.
Les exécutifs de circonscription. Coudonc, c'est-tu comme ce que j'ai vécu quand j'étais dans le CA du hockey Charlebourg? C'est-à-dire que chaque association veut jamais travailler avec l'autre parce que moi, en Beauce, c'est différent. Parce que moi, là, à Longueuil, c'est pas pareil. Ouais, mais là, comprends-moi, à Beauport, c'est pas comme Charlebourg parce que, écoute, l'avenue Beau-Royal, c'est complètement deux situations différentes quand tu traverses Beauport, Charlebourg. C'est la même chose, tu sais. Y a-tu ce petit monde-là qui veut son petit pouvoir? Puis là, ouais, mais moi, Anne-Marie Laroche, je la voulais pas. Fait que je vais la faire chier jusqu'à temps qu'elle parte parce que c'est pas la mienne.
En fait, j'ai pas la réponse à toutes tes questions. Puis j'ai trouvé ça bien mystérieux. Okay? D'abord, juste préciser qu'elle n'était pas encore candidate. Elle était candidate à l'investiture. Une investiture, c'est l'acte qui fait que on désigne un candidat dans une circonscription. Donc, il peut y avoir plusieurs candidats à l'investiture. Puis après ça, les membres vont voter et il va y avoir une candidate ou un candidat qui sera finalement le candidat officiel. Donc, Mme Laroche, elle se présentait à l'investiture et elle a été seule pendant un bout de temps.
Mm-hmm.
Et là, c'est comme s'il y a des gens qui voulaient pas soit que ce soit elle ou qui voulait qu'il y ait une course.
On va trouver quelqu'un.
Rien que pour dire, tu sais, puis
rien que pour la faire suer un peu.
Vanier, c'est pas gagné pour le PQ, là, tu sais.
Non, pas du tout, là.
Puis là, t'as une bonne candidature féminine. C'est une fille qui a un joli CV. Je pense qu'elle est experte dans le domaine de la santé. Là, j'ai pas tous les détails parce qu'elle n'est pas devenue candidate. Fait que là, son CV n'était pas sur le site du PQ.
Imagine-toi, c'est la sœur du gars qui a évalué mon stage.
Ah bon?
Hey,
ça, c'est un fun fact.
T'imagines, hein?
OK. Et elle a expliqué, Mme Laroche, que dans le cadre d'une publication sur Facebook, que son investiture a été atypique et éprouvante. Elle ne veut pas planter le PQ. Tu vois que c'est une vraie militante.
Ouais, ouais.
Pis, parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis et qui ont dit que c'était bien épouvantable. Je pense à Réal Ménard, là, qui est un ancien ministre péquiste dans le coin de Montréal. Nathalie Lassalle, dans un comté dans les Laurentides. Marjolaine Veilleux, à Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent, qui ont tous dénoncé des investitures puis des processus qui étaient un peu tout croche, où il y avait l'impression que le national voulait pas que ce soit les candidats, que le chef tirait un peu sa couverte, etc. Mais Mme Laroche, elle ne plante pas le PQ comme tel. Elle dit juste que à deux reprises, à la toute dernière minute, minuit moins une, il y a un candidat qui s'ajoutait. Donc là, ça retardait le moment où elle était investie, parce que là, on disait, ah, ben, il va y avoir un vote. Puis là, le candidat se retirait. Et là, une deuxième fois, c'est arrivé. Là, à un moment donné, elle s'est dit, hey, ça va faire le niaisage. J'ai l'impression, là. C'est pas ses mots, mais moi, c'est les mots que j'aurais utilisés. Et elle a décidé de se désister.
Assez spécial que la petite députation-là du PQ dans Vanier-les-Rivières agisse de cette façon-là, parce que c'est une véritable course à trois. PQ,
ben oui.
CAQ et PCQ. Tu as besoin d'unité pour gagner. Tu as une bonne candidature. À l'heure actuelle, la CAQ, candidat n'est pas encore connu parce que Mario Asselin, qui est le député, quitte. C'était une grosse pointure dans Vanier-les-Rivières. Là. Mario Asselin, ça fait très mal à la CAQ. Le PCQ n'a pas encore de candidat. Ils avaient présenté Donald Gagnon, qui est maintenant le chef de Québec 2.0 au municipal, l'ancien parti de Sam Hamad. Donc, on attend la candidature, là aussi. Et du côté du PLQ, ben, c'est l'ancien de la Sûreté du Québec qu'on vous a fait découvrir la semaine dernière, Charles Hudon, qui est là. C'est quand même une candidature d'envergure, mais le PLQ est à 14% là,
c'est pas gagné pour le PLQ non plus.
Ben non, parce que c'est 27, 26 et 24. Mais on est toujours dans les marges d'erreur, vous comprenez? Fait que c'est juste une véritable lutte à trois. Vanier-les-Rivières est à prendre. Fait que je comprends pas ces petites chicanettes-là, moi.
Ben, moi non plus. Puis, bon, le PQ reçoit beaucoup de CV. On nous dit qu'ils ont reçu 1000 CV.
Ouais.
Là, t'sais. Fait que, évidemment, ils ont le choix. Il faut toujours trouver l'équilibre entre laisser les processus démocratiques se faire dans les comtés, mais des fois, le chef a le goût aussi de s'entourer de certaines personnes.
Ben oui.
Et moi, je le comprends. Tu sais comment je défends toujours l'establishment, Jeff?
Non, mais oui. Oui, je le sais, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Tu sais, à un moment donné, là, le chef, il va aller à la guerre avec ses soldats.
Ben,
là.
C'est ça.
Et peux-tu choisir ses soldats, s'il vous plaît?
Puis, en même temps, justement, on parle souvent de parité, de diversité. Ben, si c'est juste les membres qui décident par compter, t'as moins une vision d'ensemble. Fait qu'il faut trouver un équilibre. Mais dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça un peu étrange. Puis c'est tellement dur de convaincre des femmes d'aller en politique.
Ben, exactement.
Elles, son expérience, là.
Parce qu'au PLQ, on a des difficultés, là, présentement, à recruter des femmes. C'est ce que tu me disais.
Écoute, j'avais une impression. Tu sais, des fois, t'as une impression, mais tu dis, je vais aller vérifier, puis je vais faire des calculs. J'ai regardé les candidatures que Charles Milliard, nouveau chef du Parti libéral, présente depuis quelques temps. Puis je me disais, c'est-tu moi où il y a beaucoup de gars?
Ouais.
Ça me semble beaucoup des gars. Puis tu sais, le Parti libéral, là, ils ont passé 7 ans à dire que c'était un boys club, la CAQ, alors que la CAQ avait fait un bon effort de parité, je vais vous le dire. Donc, je me suis dit, je vais aller voir. Je me suis fait un petit tableau. J'ai toutes sorti les candidatures annoncées qui étaient sur le site web.
Ouais.
Donc là, il y en a une ce matin, je ne l'ai pas compté, là, qui a été annoncée sur Instagram, c'est pas rendu sur le site. J'ai déterminé si c'était des gars ou des filles. Bon, là, peut-être que je peux me tromper, mais je pense que j'étais pas mal, là, j'avais les bonnes données. J'ai regardé par comté si c'était un comté prenable ou pas. Donc, je me suis fiée sur Québec 125 et il y a une certaine subjectivité là-dedans, mais tu sais, Québec 125, c'est assez bien classé si c'est enclin, PLQ ou pas. Et ce que j'ai vu, c'est que sur 50 candidats confirmés, il y a 20 femmes. Donc, on est vraiment dans la limite de la parité, là, c'est 40 % de femmes. Mais attention, là-dessus, il y a déjà un bon paquet de députés déjà élus dans des comtés sûrs libéraux. Donc, tu sais, par exemple, Madouanika, cadet dans Bourassa-Sauvé, là, ça va
passer, ouais, je comprends.
C'est sûr. Mais ça, c'est toutes des femmes qui ont été recrutées par d'autres chefs.
Fait que Charles Milliard n'est pas capable de recruter des femmes pour les mettre dans des comtés où on se dit, ils ont des bonnes chances de gagner.
Donc, en gros,
c'est ce que tu me dis.
Moi, là où j'en suis, puis c'est pas fini, là, il y a 50 candidats sur 125, il a recruté 2 femmes dans des comtés prenables.
Ça va être à suivre.
Tu sais, c'est pas beaucoup. Fait que là, peut-être qu'il va en représenter plein. C'est là, vous allez me dire, pourquoi tu le fais pas pour les autres partis? Je vais vous expliquer pourquoi. Le PQ, je vais le faire.
Ben, okay? Oui, puis là, premièrement, la CAQ, ils en ont pas encore.
Ben, la CAQ a pas de candidat. Fait que quand même...
Ils ont présenté une femme!
Oh, elle est 100%!
Elle est pas dans un comté sûr, par exemple.
Non, pas en tout, effectivement. Et QS, comme tu sais, ont déjà dit qu'ils allaient présenter des femmes dans des comtés sûrs.
Exactement.
Eux autres, même, ils se tirent un peu dans le pied. Fait que j'ai pas besoin de
vérifier
côté QS.
Eux autres font l'inverse. C'est quand il y a une vedette qui arrive, ils disent « Ouais, ça arrive quoi? On va mettre un homme. »
Mais pour vrai, ça soulève l'enjeu du recrutement des femmes. Ouais. Puis souvent, ils vont recevoir plus de CV de gars. Donc, nécessairement, tu as plus de choix. Ça demande un effort.
Vraiment.
S'ils font pas d'effort dans les prochains mois, là... c'est eux qui vont devenir le Boys Club.
Moi, on va surveiller ça. Puis honnêtement, j'en ferai pas tant de cas. Mais moi, dans la vie, je veux qu'on soit conséquent. Je veux que les bottines suivent les babines. Fait que si depuis 8 ans, tu traites la CAQ de Boys Club, tu t'es donné l'objectif de le réaliser. Je termine avec ça. Vanier, les Rivières, sais-tu quoi? Je pourrais me présenter au PQ ou à CAQ si je voulais. Je connais bien le comté.
Ben, écoute.
C'est proche de la Basse-Ville.
On aimerait mieux pas, Jeff. On aimerait mieux te garder.
Non, mais je suis ouvert. Si jamais Paul Saint-Pierre, Plamondon, Christine Fréchette veulent m'approcher, je suis ouvert. Moi, avec l'armée québécoise maintenant, peut-être que je serais en faveur du livre bleu.
Tu es ministre de la Défense.
Mais ceci dit, c'est parce que... Moi, pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que c'est facile. Moi, j'ai surveillé avant mes médias sociaux.
Ah, fait que t'as rien
à effacer. J'aurais pas un ménage à faire. Tu sais, j'ai pas une espèce d'affaire, un poste qui traîne de pro-nazi. J'ai pas ça.
Non.
D'anti-envortement, j'ai pas ça. Attends, on parle-tu de la chambre d'écho du PCQ? Bon, si vous voulez voter pour une chambre d'écho,
tu
vous avez votre parti.
Tu pourras pas te présenter pour le PCQ, je pense.
Par contre, les
autres... Non, je pense qu'ils m'aiment pas le PCQ. Mais moi, je suis à la course à ces chambres d'écho-là pour les années entières. C'est une de mes missions.
Je t'en reviens dans un instant parce que je voulais répondre sur les chambres d'écho et moi, je suis 100% d'accord avec ton approche. Il y en a qui disent on devrait pas en parler, on devrait pas inviter des masculinistes. Moi, là, je considère que quand tu mets la lumière dans la face à quelqu'un et tu demandes de s'expliquer, là... Tout tombe
à
terre.
Ah oui, puis à n'importe quel masculiniste nazi anti-avortement qui veut se présenter à mon micro, ça va me faire un immense plaisir de vous anéantir.
Exact. Tu voulais dire, Mathias,
c'est comme ça que tu détruis une chambre d'écho. Mais Jeff, si jamais tu te présentes, les autres parties vont avoir du fun, par contre, à ressortir toutes tes fois où tu as été un peu bipolaire. Aujourd'hui,
sur la question nationale, c'est terrible.
Aujourd'hui, je suis un libéral. Je suis péquiste aujourd'hui.
Canada! Puis le lendemain,
ça, c'est quand
on
je vais revenir de Toronto.
Ben oui.
Ça, c'est ça. Quoi qu'il y a, j'ai filé canadien hier soir. Quand les Jays ont gagné 4-2, là,
Là, c'est la Coupe du Monde. Hey,
et oui, demain.
Hey, ça, c'est fou, Red. Okay? C'est une trahison supportée de Canada. Je te pose la question,
Anthony. Il n'y a pas d'alternative.
Supportée de Canada demain pendant la Coupe du Monde, même si c'est notre fête nationale.
Je vous adoube. Vous avez le droit.
Mais j'ai juste dit que je ne porterais pas mon gilet du Canada. Vu que c'est à Saint-Jean.
Okay.
C'est le compromis. Je vais prendre pour le Canada, mais c'est la Saint-Jean-Baptiste. Je ne mettrai pas mon chandail.
C'est une délicate attention.
C'est une belle délicate attention. Anto, honnêtement, tu sais à quel point j'aime faire de la radio avec toi.
Caroline, c'est la
ça
fin.
Ça a été une saison extraordinaire. On va se reparler à l'automne, évidemment, parce qu'on va continuer
sûr,
à collaborer.
Ish,
non,
ish.
Moi non plus. Mais c'est vraiment un bonheur. Non seulement j'ai un bonheur à faire de la radio avec toi, mais en plus, je trouve qu'on partage des belles choses personnelles. Fait que je peux te considérer dans mon cercle d'amis. Et ça, pour moi, c'est précieux. Alors, merci pour cette belle saison.
Merci
écoute,
à toi.
Écoute, si j'étais un homme rempli d'émotions, je broyerais, mais j'ai à peu près jamais broyé de ma vie en
si
faisant ça.
Si tu te mets à pleurer, je ne saurais pas comment réagir. Puis ça va créer un malaise en ondes. Alors, souvions. Et merci vraiment pour ces magnifiques discussions. Honnêtement, pour moi, le caucus, c'est un moment de bonheur. Parce que
vraiment.
Moi, ça, c'est exactement ça pourquoi je fais ce que je fais dans la vie.
Moi aussi.
Fait que ça coche toutes les cases. Merci,
c'est
Jeff.
Pareil, ça fait plaisir. Puis je te souhaite un bel été. On va se parler pareil, on va se croiser parce que tu vas être dans le retour cet été.
Exactement, tout le mois de juillet.
Exactement, ils nous ont séparés. Oh, Steven.
J'ai envie de dire, c'est pas le départ d'Antonine. Elle est avec nous jeudi.
Ouais.
C'est Jeff qui part en congé.
Exactement, c'est moi qui pars en congé. Je suis en congé jeudi, vendredi. Je reviens par la suite pour deux semaines et je repars trois semaines en vacances.
Une dernière pour moi jeudi, mais après ça, je m'en vais.
Mais on va se
retour.
Croiser. Tu vas rentrer dans le studio puis moi, je vais sortir pendant
exact.
Deux semaines.
Je veux juste signaler quelque chose par rapport à ce qui s'est passé du côté de Montréal hier. Ça vient de sortir dans le Journal de Québec. Le tueur responsable de la fusillade venait de Lethbridge, qui est une municipalité du sud de l'Alberta. Et ce matin, il y a eu une opération policière à haut risque du côté de Lethbridge en Alberta. Les autorités locales n'ont pas voulu confirmer si l'opération était en lien avec les événements survenus à Montréal ou non. On craignait notamment que des armes se retrouvent dans la résidence où qu'on a dû intervenir. Des voisins ont été évacués. Selon certaines informations sur place, l'opération qui aurait débuté à 8 heures ce matin, l'escouade tactique et une équipe d'experts en engins explosifs qui se seraient notamment présentés sur les lieux. On devrait avoir plus de détails au cours des prochaines minutes.
Et par texto, on nous dit merci pour tous ces beaux midis. Bon congé, Jeff. Belle découverte, Antonine. Et on va être de retour, évidemment, à l'automne dans ce format-là avec l'émission Dans le jazz et le caucus. Anto, bon après-midi.
Bye.
Matt, nous, on reste en onde. On va revenir avec l'essentiel des nouvelles et des petites informations sur les travaux du tramway. Dans le jazz, juste...